Donc, on va appeler les collègues parisiens. Alors, dans la structure de la table, là, ce qu'on a souhaité, on a souhaité qu'ils nous présentent un peu leur manière de fonctionner. Et puis après, on va avoir deux réactions, hein, c'est-à-dire avec Noélie et Hossein, qui seront directement avec leur position, leur point de vue par rapport à ça.
Oui, on s'est dit que une bonne façon de parler sans doute du travail collectif, c'était d'avoir une présentation collective. C'est pour ça que nous sommes quatre de Paris aujourd'hui. Donc moi, je me présente, je suis Josse Le Breton, je suis adjointe à la MAEP, la mission académique pour l'éducation prioritaire. Puis je vais laisser mes collègues se présenter à tour de rôle.
Oui, alors Cécile Brin-Conti, moi je suis coordonnatrice de l'éclair Rouault qui est dans le 19e à Paris.
Christine Sombrin, je suis coordonnatrice de l'éclair Utrio, qui est porte de Clignancourt dans le 18e à Paris.
Et Cédric Fabre, coordonnateur du réseau préfigurateur du REP+, à Paris, Georges Clémenceau, dans le 18e arrondissement.
Bon, alors ce choix, évidemment, c'est aussi pour vous montrer que c'est pas simplement une rhétorique, le travail collaboratif, c'est vraiment une modalité de travail qu'on essaye de développer au maximum, et puis aussi sans doute, c'est ce qu'on pense, un modèle d'efficacité. Et ce qu'a dit Marc Bablet ce matin, les enjeux de l'éducation prioritaire, le défi de l'éducation prioritaire, à mon avis, ne peut pas se passer de modèle d'efficacité dans les années qui viennent. Alors, le titre de notre intervention, c'est « Coordonner les coordonnateurs ». Ça peut sembler un peu paradoxal, bien sûr, mais en même temps, je me dis que ça pose des vraies questions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évidence du tout à ce travail collaboratif. Dans le référentiel de l'éducation prioritaire, on parle d'expliciter le travail enseignant, d'expliciter l'enseignement. Et je pense que si on n'est pas à expliciter le travail collectif des enseignants, il est quand même très important d'échanger et de débattre là-dessus. Alors, par rapport à nos témoignages, je pense que c'est important aussi de vous faire un petit point très rapide sur notre contexte parisien. Parce que comme disait Patrick tout à l'heure, chaque pratique est dans un contexte qui l'éclaire. Donc quelques mots sur l'Académie de Paris. À Paris, ben, nous avons un REP+ préfigurateur, 3 éclairs et 29 RRS qui sont tous plus ou moins suivis par la mission académique. Et évidemment, comme dans tous les contextes, eh ben, y a des freins, mais il y a aussi des leviers. Alors, dans les freins, je dirais un peu structurels, Paris, c'est une ville-département. Et au niveau du rectorat, ça met en place une organisation un peu atypique, un peu particulière, parce qu'on a un recteur, bien sûr, mais qui est très polarisé, parce que sa charge de travail est très lourde sur tout ce qui est des universités, des grandes écoles, sur le supérieur, donc. Et puis, donc, nous avons pour l'enseignement scolaire un directeur d'académie et 2 DASEN, mais un DASEN premier degré, et un DASEN en charge du second degré. Et là, il me semble que c'est quand même quelque chose qui renforce le clivage assez fort école-collège, qui est quand même historique et structurel dans notre système éducatif, et qui donc n'est pas facilitateur à l'organisation et au pilotage des réseaux. Et puis, à Paris, c'est aussi le lieu de très nombreuses universités, grandes écoles de prestige. Et donc, il y a une dimension assez élitiste du système scolaire qui me semble aussi assez présente à Paris, sans doute dans les mentalités, mais sans doute aussi dans les pratiques quotidiennes des enseignants. Cependant, les choses avancent de ce côté-là, parce que pour la première fois, dans le projet académique, le nouveau projet académique, il y a eu la reconnaissance en ouverture du projet de cette hétérogénéité parisienne, de cette très grande diversité qui, jusqu'à présent, était plutôt niée. Et puis, comme je disais aussi, donc nous avons des leviers. Et un des leviers très forts, c'est la mission académique pour l'éducation prioritaire. Donc, parce que c'est une équipe assez forte et assez soudée. Nous avons bien sûr un responsable qui est un IAIPR EVS, qui est chargé de l'éducation prioritaire, chargé de la politique de la ville, du programme de réussite éducative, et puis aussi d'un certain nombre de dispositifs d'égalité des chances. Il y a 2 adjoints, dont moi-même, et puis il y a 2 enseignantes qui sont missionnées sur la réalisation d'un tableau de bord et puis le développement du numérique. Et puis surtout, bien sûr, nous avons 18 coordonnateurs qui ont en charge chacun 1 ou 2 réseaux d'éducation prioritaire. Mais il faut le préciser, ils ont une charge de travail assez particulière sur Paris parce que tous assurent une mission de gestion et de suivi des coups de pouce et des ALEM et qui, je crois qu'ils pourront tous se confirmer, est une charge de travail non négligeable dans la semaine. Et aussi, par ailleurs, la mission académique donc assure la coordination de dossiers thématiques, comme les cordées de la réussite, le CLAS, le PRE, qu'est-ce qu'il y a d'autre, la lutte contre le décrochage. Et ça, on peut évaluer à au moins 4 postes mobilisés au total sur ces missions-là. Donc nous avons donc la chance d'avoir des coordonnateurs qui sont tous à plein temps, ce qui leur donne donc du coup une grande liberté de mouvement puisqu'ils n'ont pas de charge de classe ou de direction. Et puis Paris c'est aussi très facile pour se déplacer très rapidement ou en Vélib ou en vélo ou à pied ou en métro, on peut très vite être ensemble pour travailler. Donc voilà un petit peu ce contexte hein, dans lequel nous pouvons et nous devons aussi travailler de façon sans doute plus collaborative, peut-être que dans d'autres endroits au niveau de la mission académique, et en prenant notamment appui sur les coordonnateurs. Alors, quel travail collectif avec les coordonnateurs ? Bon, je dirais qu'on a des réunions d'information assez institutionnelles qui sont pilotées par le responsable, une ou deux fois par trimestre, sont plutôt des informations de type descendante. Ces réunions sont d'autant plus indispensables qu'à Paris, il n'y a pas de réunion académique des pilotes de l'éducation prioritaire. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'y travaille, je n'ai jamais vu de réunion regroupant l'ensemble des chefs d'établissement et des IUN concernés par l'éducation prioritaire, sauf ce matin, pour la première fois, mais nous n'y sommes pas. Voilà. C'est, vous l'imaginez bien, à cause de la nouvelle carte. On a aussi une dynamique d'accompagnement des nouveaux coordonnateurs quand ils arrivent à Paris, avec une dynamique de formation, d'information, et qui là, pour reprendre un peu ce qui a été dit ce matin, s'appuie beaucoup sur des collaborations assez informelles aussi avec d'autres collègues. Et puis l'objet un peu plus des échanges de cet après-midi, eh bien, ce sont les groupes de travail ou les groupes de réflexion, donc qui émergent chaque année et qui sont animés par la MAEP. Alors ça peut être par exemple l'aide à la rédaction de fiches actions, ça peut être constituer un dossier sur les demandes de financement, donc des besoins que les collègues peuvent sentir et où ils ont besoin de travailler ensemble pour formaliser quelque chose. Alors, notre fonctionnement de ces groupes de travail, eh bien, il est très classique. On n'a absolument rien d'innovant sur cette dimension-là, dans la méthodologie de travail. Et là, je reprendrai ce que disait Marc Bablé ce matin, c'est-à-dire que, ce sont des réunions. Hein, ça garde toute son efficacité, mais sans doute à certaines conditions. Donc la MAEP propose en général chaque année 1, 2 ou 3 thèmes de travail auxquels évidemment les coordonnateurs s'inscrivent. Les attentes sont très claires, hein, il faut participer aux réunions bien sûr, mais on demande aussi un engagement au-delà de la participation aux réunions, un engagement dans assurer une veille ou de s'informer sur le sujet, et puis de s'engager aussi dans la production, dans la réalisation d'outils qui sont attendus comme finalité de ces groupes. Évidemment, la participation des coordonnateurs est très diverse. Il y a des gens qui sont toujours partants pour tout, volontaires pour tout, et puis d'autres qui le sont moins. Mais ça, je pense que c'est une réalité avec laquelle il faut faire. Et puis voilà. Au-delà de ça, ce qui nous semble important dans la dynamique de travail qu'on met en place, c'est que chaque groupe, et ça c'est vraiment une constante, est suivi par la MAEP. Et le fait d'assurer cette dimension des groupes de travail avec un suivi par souvent un des adjoints de la MAEP, ça garantit la pérennité du groupe dans le temps, et ça garantit aussi, autant que faire se peut, la réalisation des objectifs qui sont prévus dans le groupe. Donc je vais vous présenter très rapidement, trop rapidement sans doute, mais bon tant pis, c'est la loi du genre, hein, 3 exemples de groupes de travail qui ont eu des situations d'origine et puis des fonctionnements très différents. Donc, le plus ancien que j'ai pu conduire avec les collègues, ça a été pour les contrats éclairs. Alors, l'origine de ce groupe de travail eh bien, est très simple. Hein, c'était la commande institutionnelle que chaque éclair se dote d'un contrat, d'un projet de réseau en 2012. Et puis, on avait pu faire le constat que pour dire ça comme ça, les contrats de rares eh ben, étaient peu actifs dans les réseaux. Et donc, on s'est dit qu'il fallait absolument travailler à mieux outiller les pilotes et aussi les coordonnateurs pour élaborer ces contrats. Et donc, nous avions eu d'entrée de jeu une perspective de réalisation, de production de documents avec aussi une méthodologie de travail à mettre en place sur le réseau. Donc ce travail s'est conduit avec 6 coordonnateurs sur une période relativement courte, puisque ça a été 3 mois. Il y avait un impératif assez fort dans les délais pour la mise en œuvre. Hein. Mais ce qui était intéressant, c'est que dans les échanges, et aussi porté beaucoup par notre responsable, au-delà de faire le projet, où on s'était dit que bah, bien sûr c'est bien de faire un projet, ce qui est apparu de façon assez forte, c'est qu'il était vraiment nécessaire d'engager l'ensemble, ou en tout cas le maximum d'enseignants dans cette dynamique d'élaboration de projet, et de les mobiliser très tôt dans cette élaboration, pour éviter que ces contrats restent une lettre morte ou un dossier rédigé sur un coin de table et mis au fond d'un tiroir par les pilotes ou une situation que malheureusement on connaît assez fréquemment. Donc un des axes du travail, ça a été vraiment de travailler avec les coordonnateurs sur comment engager des enseignants dans l'élaboration de ce contrat et d'entrée de jeu de mettre en place une méthodologie de diagnostic partagé. Alors, il y a eu ce travail dont chaque coordonnateur éclair s'est emparé. Et puis nous, par ailleurs, nous avons produit des documents d'appui à l'élaboration des contrats, une espèce de modèle, de cadre, de matrice, un peu de contrat type que chacun pouvait s'approprier et décliner en fonction de son contexte, bien sûr, et puis des annexes peut-être plus thématiques, plus techniques qui était une aide aussi aux pilotes pour réaliser ce contrat. Donc, par exemple, des éléments de terminologie, parce que, les indicateurs, les indices, tout ça, c'est souvent quelque chose d'un peu flou. Quel était le rôle du coordonnateur? Qu'est-ce qu'on pouvait attendre du coordonnateur pour monter ces projets? On a aussi réfléchi à une dynamique d'évaluation qui aille depuis les évaluations nationales, qui sont très larges et pour lesquels les enseignants de classe ne se sentent pas toujours concernés, qui lient ces évaluations nationales à une évaluation des objectifs du réseau, mais aussi une évaluation des actions qui sont conduites par les enseignants dans les classes. Et puis, un petit document relativement simple, mais qu'on vous proposera de mettre en ligne sur l'espace collaboratif, une aide à la lecture de radar, parce que c'est aussi un outil qui est assez intéressant et dont les enseignants peuvent se saisir de façon assez pertinente. Et donc, à partir de ça aussi, cette réflexion très axée sur la nécessité de construire un sentiment d'appartenance au réseau, qui était vraiment, pour dire les choses comme ça, très faible dans l'ensemble des réseaux parisiens, a fait émerger l'idée qu'il fallait des documents de communication et notamment des documents de présentation du réseau, très simples, au moins en début d'année. Et donc, une des collègues vous en fera part. La suite de ce travail, donc, il a été diffusé largement. Les 4 éclairs s'en sont saisis de façon différenciée, ce qui était l'objectif. Mais ce qui a été très difficile, c'est qu'il n'y a pas eu de signature des contrats, parce que c'était 2012. Il y a eu un changement d'orientation politique et ministérielle. Et ça a eu un effet de déception très forte dans les équipes qui s'étaient vraiment mobilisées pour faire ce travail et qui ont eu un sentiment de non-reconnaissance. De ce travail. Et je crois que ça pèse encore parce qu'on va avoir à faire les nouveaux contrats de REP et de REP+. On va bien sûr réutiliser, réaménager ces premiers documents. Mais on a un historique là qui est un petit peu pesant. Autre exemple, la mallette du référentiel de l'éducation prioritaire. Alors là, c'est un autre historique, hein, puisque, pour faire très vite, les collègues ont eu beaucoup d'échanges et de collaborations informelles pour mettre en place la consultation sur les assises de l'éducation prioritaire l'an dernier. Ils ont échangé beaucoup de documents, les réalisations de PowerPoint, des choses comme ça. Le bilan était très, très positif. Ça a été très porté par les coordonnateurs qui sont trouvés vraiment à mettre en place des dynamiques qui étaient un peu absentes dans beaucoup de réseaux. Et puis ensuite, il nous a fallu solliciter, voire enfin désigner, entre guillemets, parce qu'il nous fallait vraiment 5 personnes pour les assises interacadémiques de l'éducation prioritaire pour élaborer les comptes rendus. Donc 5 coordonnatrices, en l'occurrence, se sont portées volontaires. Et puis elles ont, à l'issue de ces assises, avec le travail avait été fait, il y a eu un autre temps de travail, un peu au-delà de ce qui était attendu, pour se poser la question du référentiel et de comment permettre aux gens de se l'approprier sur le terrain. Et comment le diffuser, comment l'utiliser. Et ça a conduit donc le groupe à poursuivre le travail engagé avec d'une part la conception, la réalisation d'un tableau un peu sous forme Excel qui permettait de repérer la situation du réseau au regard des différents items du référentiel, un état des lieux, et puis permettre de suivre l'évolution du réseau. Alors c'était un document assez complexe, hein, on peut dire, qui n'a pas été finalisé, parce que ça fait partie des choses qui arrivent dans la vie, on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on avait prévu, mais qui sera peut-être repris à un moment ou un autre. Et puis d'autre part, nous avons donc réalisé ce qu'on a appelé la mallette du référentiel, c'est-à-dire de reprendre ce référentiel et de le penser avec une entrée métier. Parce que l'éducation prioritaire, c'est le cœur de notre métier, c'est notre expertise, on est dedans pour la plupart d'entre nous une bonne partie de l'année, une bonne partie de notre activité, mais c'est pas le cas toujours des enseignants, c'est pas toujours le cas d'un chef d'établissement, et donc on a détricoté, retricoté ce référentiel en disant mais qu'est-ce qu'un enseignant a besoin de savoir, qu'est-ce qu'un directeur d'école a besoin de savoir, qu'est-ce qu'un pilote a besoin de savoir pour que chacun puisse s'en emparer plus facilement. Donc ça fait l'objet d'une large diffusion, ça a été utilisé de façon différenciée bien sûr dans chaque réseau, mais ça circule assez bien dans les réunions de rentrée, dans les premiers COMEX, et puis évidemment on va s'en resservir pour ce qui va être de la phase qui va commencer en janvier sur la réalisation des projets. Donc là, ce que je trouvais intéressant dans ce groupe, c'est que au-delà de la commande et de l'attente institutionnelle, le groupe a eu envie d'aller plus loin pour construire des outils à mettre à disposition des collègues. Et puis un autre point, un autre dossier qui s'appelle lutte contre les discriminations égalité filles-garçons. Et là, l'origine est aussi très très différente, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune demande, aucune commande institutionnelle, mais on s'est aperçu que c'était une problématique qui était, qui devenait de plus en plus présente chez nos partenaires au niveau de la ville, au niveau de la politique de la ville, et que on était un peu sec sur le sujet. Et donc on s'est engagé dans un cursus de formation, notamment avec l'aide de la DAFOR, donc la formation académique, mais aussi au-delà de cette proposition, puisque là aussi on a la chance, en étant à Paris, d'avoir accès à beaucoup de temps de séminaires ou de formations qui sont gratuits et pour lesquels évidemment on n'a pas de problème de budget de déplacement. Et puis on s'est constitué comme groupe ressources. C'était un groupe très fluctuant, entre 4 et 7 personnes, qui a donc vécu entre 2011 et 2014, et où la dernière année on s'est dit il faut qu'on produise quelque chose, parce que il faut qu'on fasse partager tout ce qu'on a pu apprendre durant ces 3 années. Et donc on a produit un document assez conséquent d'une 50aine de pages avec des repères théoriques, et puis aussi, comme ils voulaient très pratique, beaucoup de ressources nationales et locales et des fiches thématiques. Alors tout ça est en ligne, et puis évidemment on vous le mettra à disposition, parce que là...
Stéphane vient de le mettre dans votre dossier partagé.
Ah, voilà. Merci Stéphane. Parce qu'on a eu évidemment quelques échanges avec le réseau de lutte contre les discriminations et Stéphane. Voilà. Donc ce qui est intéressant dans ce groupe, c'est que on n'était pas en réaction à une demande, mais finalement on s'est trouvé en anticipation de quelque chose qui émerge de plus en plus comme une problématique sur laquelle il faut qu'on ait un point de vue, tout simplement. Et par exemple, j'ai lu la semaine dernière que dans le cadre des futurs contrats de ville, le plan de lutte contre les discriminations, était un des points à aborder. Alors, pour conclure, là, très rapidement, quelques réflexions issues de ces expériences, mais aussi d'autres. Le travail collaboratif, c'est de la volonté, je crois, d'abord, sans aucun doute. Je crois que c'est important aussi de le vivre soi-même, de le mettre en place soi-même pour le faire vivre à d'autres, parce que, en effet, on en tire beaucoup de bénéfices et que c'est du coup, ça donne envie de le faire pour d'autres. Et puis sur ce travail collaboratif, deux éléments essentiels qui ont été évoqués aussi à plusieurs reprises, c'est qu'il faut offrir des espaces où les gens puissent s'exprimer, mais aussi penser, parce que la dimension de l'intelligence collective est vraiment quelque chose de très très porteur. Et donc il faut que les enjeux professionnels qui sont l'objet de ce travail-là soient assez riches. Et puis, ce qui renvoie à la question du sens qui a été évoquée plusieurs fois et ce matin et cet après-midi. Et puis aussi avoir des objectifs de finalisation. Et nous, on est très attachés à ce qu'il y ait une production. Elle peut être d'ordre divers, mais c'est le petit pas de plus qu'on n'a jamais le temps de faire. Ça, je le sais, je suis la première à le déplorer. Mais ce pas de plus, il faut vraiment l'intégrer parce que, d'abord, ça mutualise, donc ça donne à d'autres. Et je pense qu'ils ne reproduisent pas à l'identique, mais ils vont piocher des idées et puis on les rebricole. Enfin, on fait tout ça d'une façon ou d'une autre. Et puis, cette visibilisation du travail, je pense qu'elle... Elle apporte parfois une certaine fierté ou en tout cas une satisfaction certaine aux gens qui ont été membres de ce collectif de travail. Et ça me semble important parce que c'est quand même un engagement supplémentaire qu'on leur demande. Ça me semble important de leur renvoyer cette image-là. Donc voilà, en effet, le travail collaboratif, ça se coordonne. Et mes trois collègues, parce que je ne vais pas conclure, je vais leur passer la parole, vont voir comment tout ça se maille aussi et se tisse sur le terrain de leur réseau. Alors, je ne sais pas, peut-être Christine, Anne, c'est Fabrice. Alors, c'est Fabrice.
Cédric.
Pardon.
Donc, je suis Cédric Fabre, je suis coordonnateur sur le réseau préfigurateur dans le 18e arrondissement. Je suis professeur des écoles initialement, j'ai enseigné au collège dans l'enseignement spécialisé et je suis coordonnateur que depuis l'année dernière, donc c'est ma deuxième année. Et mon intervention là, c'est d'essayer de mon point de vue de coordonnateur de vous faire partager comment on a abordé la mise en place de la mesure 7 de la refondation de l'éducation prioritaire sur du temps pour travailler ensemble. Donc de mon point de vue de coordonnateur, j'ai participé à l'ensemble des concertations au premier et au second degré, que ce soit les conseils pédagogiques au collège par exemple, ou des conseils avec les directeurs en circonscription, de manière à pouvoir organiser le temps. De ma posture de coordonnateur, j'ai veillé vraiment à cette articulation dans la mise en œuvre de la mesure entre le premier et le second degré, en étant vigilant sur tout ce qui est temps de travail interdegré, parce qu'on est dans une dynamique de réseau qui existe depuis longtemps déjà, depuis le rare à l'éclair, et ce temps de travail interdegré n'était pas dédié. Donc mon intervention s'articule autour de la préparation, tout ce qui était temps de concertation l'année dernière, la mise en œuvre depuis le mois de septembre, et puis la régulation qui a déjà commencé depuis la semaine dernière. Donc au niveau de la préparation, dans les écoles, l'Académie a doté le réseau de 4 remplaçants REP+, pour permettre le remplacement des 64 enseignants du premier degré en poste, afin qu'ils puissent bénéficier de 18 demi-journées sur l'année. L'Académie nous a accordé également un crédit individuel de temps pour les enseignants du premier degré, c'est-à-dire que des heures effectuées hors temps scolaire, par exemple des mercredis après-midi ou en fin de journée, pour notamment les rencontres interdegrés, sont créditées au niveau des 54 heures sur les 18 demi-journées. Ça leur permet de libérer du temps lorsqu'ils sont remplacés notamment. au collège, au niveau structurel, au collège, pour le temps de travail collectif, nous avons décidé d'inclure 1h30 dans hebdomadaire tous les mardis après-midi après 15h30, parce que avec l'aménagement des rythmes éducatifs à Paris depuis l'année dernière, les écoles du réseau terminent la classe le mardi et le vendredi à 15h. Donc à 15h30, il nous est apparu un temps approprié pour tout ce qui serait temps de travail interdegré. Donc ça, c'était au niveau du structurel, mais évidemment, pour une fois qu'on a la structure, qu'est-ce qu'on va faire de ce temps de travail au niveau du collège et au niveau des écoles? C'est en concertation avec les directeurs du REP+, d'abord, et le nouvel IEN, qui est arrivé au mois de septembre, que nous avons réfléchi sur les temps spécifiques au niveau des contenus. Et on est parti sur le principe que de la reconnaissance d'un temps qui existait déjà au préalable dans les écoles. Donc au niveau des écoles, les enseignants travaillaient beaucoup. Une des directrices l'année dernière avait comptabilisé le nombre d'heures effectuées pour du temps de travail en équipe, en dehors du temps scolaire et du temps réglementaire, en dehors des 108 heures, et elle avait comptabilisé une quarantaine d'heures. Donc cette année, avec ces principes de remplacement, nous avons décidé que pour cette année de préfiguration, on essaie de développer ce qui existait déjà et de le formaliser grâce à ces 54 heures. Au niveau du collège, c'est en conseil pédagogique et avec les PCN, les professeurs coordonnateurs de niveau, que nous avons discuté les différentes thématiques et contenus. On a de là défini un calendrier au niveau du collège qui est appliqué depuis le mois de septembre. Donc de manière hebdomadaire, on a des temps au niveau du collège pour des équipes relais de niveau, donc par rapport au suivi des élèves. On a également défini des temps de concertation par classe et également des temps pour tout ce qui était projet et dispositif pédagogique. Donc ça, c'est au niveau du collège. Pour la mise en œuvre depuis le mois de septembre dans les écoles, les quatre remplaçants REP+ se déplacent dans chaque école en équipe par quatre de manière à pouvoir remplacer quatre enseignants à chaque fois, pour favoriser le travail d'équipe, ce qui permet donc aux enseignants dans les écoles, à l'interne, de se réunir et d'avoir ce temps une demi-journée tous les 15 jours. Nous avons également prévu des temps de travail interdegré avec des thématiques. La première a eu lieu le 10 septembre, c'était un séminaire de rentrée, de manière à marquer le lancement de ce temps de travail collectif. C'était un mercredi après-midi. Donc, ça illustre ce que je vous expliquais tout à l'heure au niveau du crédit temps. Un mercredi après-midi, les enseignants du premier degré ont travaillé 3 heures. Ils se sont rencontrés, ils ont échangé autour d'un forum qui illustrait les différentes thématiques et dynamiques du réseau. Ils ont crédité sur leurs 54 heures, 3 heures. Donc, c'est-à-dire que chaque enseignant du réseau, les 64, ont déjà 3 heures qu'ils peuvent garder et lorsqu'ils sont remplacés selon le calendrier des remplaçants REP+, ils peuvent l'utiliser comme ils le souhaitent. Voilà. Donc ils ne sont pas obligés de venir à l'école pour se concerter parce qu'ils se sont déjà concertés hors temps scolaire. Ce qui donne et ce qui est beaucoup apprécié par les enseignants du premier degré, parce que ça donne une souplesse et c'est une vraie reconnaissance et une vraie confiance, parce que c'est ce qui est remonté. Donc différents temps de travail interdegré. Le prochain aura lieu le 4 novembre. On va se réunir après 15h30. Puisque c'est le temps qui avait été décidé après la classe, hein, à 15h30 pour 1h30, qui nous permettra d'engager un diagnostic partagé, donc qui va réunir tous les enseignants du réseau, du premier et du second degré. Voilà. Enfin, pour mon intervention qui est très courte, puisque je ne voulais pas trop rentrer dans les détails, c'est au niveau de la régulation. Le coordonnateur intervient beaucoup au niveau de la régulation. Un calendrier a été défini pour le premier degré et au collège également, et notamment des régulations avec les quatre remplaçants REP+, parce que même si on a le luxe de bénéficier, enfin que nous ayons simplement quatre remplaçants, ils ont pour un seul réseau, c'est-à-dire huit écoles, quatre remplaçants pour huit écoles. Pour eux, du point de vue des remplaçants REP+, c'est très compliqué. C'est une mission très difficile parce qu'ils connaissent, enfin ils rencontrent plus de 15 classes en 15 jours, des équipes différentes et un rythme très soutenu parce que c'est toutes les demi-journées qu'ils doivent changer d'école. Voilà. Donc on va également travailler avec les remplaçants REP+ pour essayer de les soutenir et les accompagner. Donc on est vraiment dans une année de préfiguration sur le réseau Clémenceau, avec des bilans qui sont écrits et des ajustements en cours d'année lors des réunions de régulation, de manière à essayer différentes modalités de travail collectif.
Bonjour, Potiana, chargée de mission éducation prioritaire et politique de la ville en Seine-Saint-Denis. Voilà, j'avais une question sur justement, nous on appelait ça les brigades REP+, en fait, vous en avez quatre, on en a beaucoup plus. Mais si j'ai bien compris votre fonctionnement, en fait, ils vont dans une seule école seulement à chaque fois. Donc en fait, il y a la dynamique de réseau entre les écoles, quand est-ce que vous la faites ?
Oui, c'est évidemment la limite de ce. On a uniquement quatre remplaçants REP+, et on a des écoles où il y a 8 classes, d'autres où il y a 11 classes. Donc même à l'intérieur d'une école, on ne peut pas remplacer les remplaçants. Mais on a fait le choix d'un fonctionnement en filet parce que il nous semblait important qu'il y ait une régularité dans le travail d'équipe et qu'il y ait un calendrier. Défini de manière à ce que, à la fois du point de vue des remplaçants REP+, ils puissent s'y retrouver pour que ça soit régulier et fixé dès le début de l'année, et également pour les titulaires et les élèves en fin de compte, pour qu'ils puissent avoir une cohérence. C'est le choix qu'on a fait. Mais évidemment, il y a beaucoup de solutions. J'imagine que on a tous différents fonctionnements.
Je comprends comment vous avez fonctionné. Puis deuxième question. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais vous parlez de la concertation, mais au niveau de la formation, est-ce que vous avez déjà commencé vos jours de formation ou pas ?
Alors,
et comment vous avez mis ça en place ?
Oui. On est également en pleine concertation depuis l'année dernière sur la formation, et on est accompagné par les professeurs formateurs académiques éducation prioritaire, et on est en pleine construction de ces jours de formation. Ce qui est, ce que je vous casse pas, qui est très chronophage, hein, ça demande beaucoup, beaucoup de temps, de concertation justement avec des nouvelles professions, les PFA qui arrivent par exemple sur le réseau REP+, qui nous accompagnent, et on a de la chance d'être le seul REP+. Donc tout le monde doit trouver sa place, on a un nouvel IEN, on a un nouvel inspecteur référent, donc c'est vrai que. Tout ça, ce sont des éléments du contexte qui font que la concertation est beaucoup plus compliquée parce que, évidemment, le réseau a sa propre historique et on doit concilier tout ça. Mais on avance, en tout cas, sur les formations. Le premier jour de formation aura lieu le 4 novembre.
Bon, et je vais vous présenter comment, à partir d'un exercice contraint, on va dire, c'est-à-dire élaborer un contrat de réseau, on a réussi à mobiliser 150 personnes, parce qu'un réseau, là, c'est 9 écoles, un collège, une communauté de 150 adultes à peu près, avec des rythmes différents, parce que premier et second degré, des temps de travail différents, des cultures différentes, et deux pilotes très différents. Alors tout ce que je vous dis là, vous le savez, mais quand il faut mobiliser tous ces gens, faire appel, négocier entre le premier, le second degré, les pilotes entre eux, arriver à les réunir, et ben voilà, on est à la fois dans les freins, dans les enjeux, dans ce qui fait la joie d'un réseau, mais qui n'est pas toujours évident. Donc le réseau, on en parle, on le nomme. Alors on est passé hein, par REP, RAR, il fallait qu'on passe éclair et qu'on élabore un contrat. Donc bah, ça n'a pas été forcément simple. Et pour que l'enjeu était que tous les personnels y participent, sachent pourquoi on faisait un contrat, essayent de comprendre les enjeux et que ça prenne du sens. Que ce contrat ait réellement un sens et que ce ne soit pas un document qui soit là et qui existe quelque part à l'inspection ou dans le bureau du principal du collège. Donc on a beaucoup travaillé en amont. Quand je dis nous, c'est les deux pilotes, moi, la MAEP, avec des documents, pour que ce contrat deviennent une évidence et que ça soit important de l'écrire pour tous. Donc, on s'est servi des temps institutionnels, des temps formalisés, et nos objectifs, c'était informer. Informer tous les personnels. Les enseignants, les directeurs, les assistants d'éducation, les CPE, tout le monde. Et ça nous semblait primordial. Deuxième objectif, expliquer. Expliquer les objectifs, le bien fondé et ce que ça nous apportera, la plus-value. Ça, c'était aussi essentiel. Troisième objectif, donner à lire. Et donner à lire à tous les textes officiels, ce qu'on nous demandait, ce que ça allait faire. Et donner à lire aussi à tous les documents qu'on avait, les comptes rendus, le pourquoi de la chose. Et enfin, diffuser, qui va aussi avec donner à lire, un état des lieux. Alors cet état des lieux, ça a été depuis un plan, tout bête, où se situent les écoles. On est 9 écoles, on est sur un petit territoire parisien, mais finalement, on se rend compte que dans une école, les collègues viennent, repartent, mais ne savent pas entendre parler de l'école d'à côté, mais ne savent pas forcément y aller à pied. Et puis, un contexte local. Donc, on a fait un état des lieux très précis, qui allait depuis un plan au nombre d'adultes, au nombre d'enfants, en passant par des évaluations, par les CSP, par là. Et ce qu'on voulait, c'est que on parte sur ce contrat, non pas sur un ressenti, mais sur une réalité. C'est-à-dire, c'est ça. Actuellement, on en est là. On a tant de gamins, tant de gamins qui évitent le collège, tant de gamins qui nous quittent en cours de scolarité, tant de CSP défavorisés, tant là, à l'époque, on avait encore les évaluations nationales, on s'en est servi dans telle école, voilà les résultats. Voilà. Et donc, partir tous sur la même base et sur une base réelle et non pas le ressenti de « on est dans un quartier défavorisé du nord de Paris avec ses enfants qui sont en difficulté ». Bon. Donc, une fois qu'on a eu diffusé, là, tout ça, on a continué à travailler dans les instances. C'est-à-dire on n'en a pas inventé d'autres dans un premier temps. On s'est servi des instances existantes. Conseil des maîtres, conseil d'école, conseil pédagogique, réunion au collège, et voilà. Avec les relais étant les deux pilotes, chacun à son niveau, les directeurs d'école, les préfets des études, qu'on appelle professeurs coordonnateurs de niveau à Paris, mais voilà, qui on avait tous pour mission de, à chaque instance, de remettre les documents, de redonner le calendrier, les grandes étapes du calendrier. À ce moment-là, il va se passer ça. À ce moment-là, on va vous concerter, etc. Ce qui fait que, en un mois et demi presque, l'idée du contrat était à peu près dans toutes les têtes, dans toutes les écoles, dans là. Je dirais, moi, on me voyait, c'était « Ah, on va parler contrat ». Bon. C'était le but, recherché, pour que chacun y participe. Et Une fois que ça, ça a été en place, on a fait 5 réunions interdegrés et intercatégorielles. C'est-à-dire, dans chaque réunion, on a appelé des gens de la maternelle, des gens de l'élémentaire, des gens du collège. Les pilotes étaient là aux 5 réunions. Les collègues de la MAEP, quand ils pouvaient, des parents d'élèves, des assistants pédagogiques et quelques personnes du quartier ou de l'EDL, de l'équipe de développement local. Et ont émergé des thèmes qui ressortaient, des besoins, qu'est-ce qu'il faudrait dans notre contrat et qu'est-ce qu'on va développer dans notre réseau. À chaque, ce qu'on a dit depuis ce matin, à chacune, au bout de chacune de ces réunions, on a fait un compte-rendu. On a validé un certain nombre de choses qui s'étaient dites et on a rediffusé systématiquement. Et à l'issue, une fois que ces 5 réunions ont eu lieu, tout le monde avait tout ce qui était sorti des 5 réunions. Alors, à la fois en numérique, mais aussi en papier. Parce qu'on s'est rendu compte que les collègues avaient aussi besoin de surligner, de voir ce qui s'était dit, et que le numérique ne suffisait pas. Il ne suffisait pas d'inonder leur boîte mail pour que ça soit lu, pour que ça s'approprie. Donc on a diffusé, ça a été un choix, et ça a été un choix du principal du collège qui a dit « Ok, sur les crédits, on peut », et on a diffusé. Voilà. Donc tout ça, ça a été des allers-retours en permanence, mais ce qui fait que tout le monde avait un petit bout, s'en était approprié, avait contribué à ça. Les axes, suite à toutes ces réunions, les pilotes et moi, on en a dégagé 4 qui ressemblaient, qui semblaient émaner de tous. Mais une fois que tout le monde a eu ses contre-rendus, ça a rediscuté dans les écoles, forcément. Chacun a dit « Ah tiens, les autres, ils ont dit ça. Ah ben nous, on aimerait bien. » Et là, c'est les directeurs ou les professeurs, les préfets des études qui ont remonté l'info. Et on n'a plus eu qu'à, en COMEX, reprendre ses axes. Et là, on les a amendés en direct. C'est-à-dire que là, chacun était porteur de ce qui était ressorti. Et on était vraiment dans une moulinette, là. Ça avait été revu, là. Chacun a rapporté la parole de la base. Et on a établi les axes ensemble. Et, bien sûr, dernière étape... une fois que ces axes ont été validés, le lendemain, ils étaient diffusés partout. Ce qui fait que le contrat éclair, comme vous a dit Joss, qui n'a jamais été signé par les autorités, mais qui a le mérite d'exister, et dont on se sert depuis 3 ans, on y fait référence. À chaque rentrée, on fait un séminaire de rentrée dans l'éclair. Et on rappelle les axes ou on fait une conférence qui a un rapport avec un des axes. Ce contrat appartient réellement à tous. Ça n'a pas été simple, ça a été chronophage. Pour les pilotes en amont, pour tout le travail fait. Pour les équipes aussi, enfin ils ont accepté de donner du temps. On a utilisé beaucoup de papier. Mais actuellement, on y fait référence. C'est-à-dire que le contrat éclair a un sens pour tous. Et, bon, quelque part, c'est ce qu'on voulait. On a réussi à se servir, à ne pas réinventer autre chose, mais à se servir des instances existantes, du travail qui a été fait, à le valoriser et à ce que chacun y participe. En dernier, pour vous dire, l'axe 4, on a 4 axes dans notre contrat éclair, et l'axe 4, c'est développer le sentiment d'appartenance au réseau et une culture commune à l'ensemble des personnels afin de permettre à chaque adulte d'investir son rôle. Voilà ce qui est sorti de ce travail.
Oui, moi j'ai une question pratique, technique, parce que vous avez dit que vous aviez utilisé les instances existantes, mais sur vos réunions à la fois interdegrés, intercatégorielles, ça veut dire qu'il y a une obligation ou pas? Ou alors comment vous débrouillez pour être sûr que tout le monde soit représenté si ce n'est pas une obligation?
Alors, il y a que. Alors, les seules instances qui n'étaient pas créées, qu'on a créées, c'est les 5 réunions intercatégorielles. Donc, ces réunions rassemblaient des personnes d'une école maternelle. On avait, là, on a demandé aux collègues de s'arranger. Alors, à Paris, on a ce qu'on appelle des PVP, professeurs Ville de Paris en art plastique, en EPS et en éducation musicale. Donc, sur des temps, on leur a demandé de prendre des classes à... le mardi après-midi, je crois, je vais vous dire. Et à ce moment-là, il y a 2 ou 3 collègues qui pouvaient se libérer de l'école, voilà, pour venir. En maternelle, on a jonglé sur, il se remplace, il y a la sieste, il y a une ASEM, etc. Donc tout ça, ça a quand même été une volonté et un choix de l'IEN, qui a voulu et qui a permis. Ça, c'est essentiel. Quand je vous disais tout à l'heure, 2 pilotes, il y a un investissement des IEN qui est essentiel. Le reste, on s'est servi d'instances existantes. Ça a été les 5 réunions qui ont demandé 1h30. On les a faites à cheval. Il y avait 1 heure prise sur le temps de travail, en arrangement avec les collègues et autres, et 1 heure en plus.
Allez, le sentiment d'appartenance.
Le sentiment d'appartenance.
Donc alors, le fameux sentiment d'appartenance au réseau, la culture commune, donc mes collègues en ont parlé, ça passe par des rencontres, par des projets de réseau. Et si tu veux bien mettre... Il y a aussi un autre outil qu'on a mis en place dans le réseau dont je m'occupe, donc dans le 19e, c'est une lettre de réseau. Donc cette lettre de réseau, elle paraît toutes les 6 semaines. Et en fait, elle a un double objectif. Le premier objectif, c'est d'expliquer le fonctionnement du réseau à tout le monde. Pas seulement aux nouveaux, mais vraiment à tout le monde. Vraiment, je crois qu'il y a des personnes qui ont dit qu'il y avait une diversité de métiers, et notamment en éducation prioritaire. Donc c'est bien un moment de repréciser qui fait quoi, comment ça se passe. Et puis, bien comprendre les compétences de chacun, c'est ce que disait Madame Le Thaume, là, tout à l'heure. Et voilà, donc ça permet dans un premier temps de vraiment présenter le fonctionnement du réseau, de donner les noms, de donner la carte géographique, de donner les adresses, voir où on se positionne, et de présenter aussi les partenaires extérieurs avec qui on travaille beaucoup, et ainsi que le quartier dans lequel le réseau est situé. Donc ça, c'est une première chose. Et puis cette lettre du réseau, ensuite, alors ça c'est peut-être la deuxième lettre, elle permet aussi de présenter l'actualité du réseau. Parce que finalement, c'est le propre d'un réseau...
Oui, ça j'imagine.
Non, c'est pas ça. Hein. c'est qu'il se passe beaucoup de choses dans les réseaux, il y a beaucoup de projets, mais tout le monde ne participe pas à tous les projets. Donc tout le monde n'est pas forcément au courant de ce qui se passe dans l'ensemble du réseau. Et la lettre, en fait, elle permet de présenter assez succinctement les projets qui ont lieu dans le réseau et de finalement donner une vision globale de l'activité du réseau et vraiment de donner une visibilité à ce qu'est le réseau. Voilà. Donc là, vous avez des exemples. Donc là, un exemple d'un atelier, l'exemple d'un atelier bilingue qui a été mis en place dans des écoles. Et puis toujours, on s'attache à expliquer comment on travaille avec les partenaires, avec quels partenaires, là en l'occurrence la réussite éducative, parce que finalement, les pilotes et le coordo connaissent assez bien les partenaires, mais les enseignants peut-être un petit peu moins bien. Donc il y a vraiment un moment où il est nécessaire de reposer les choses et de leur expliquer un petit peu mieux le fonctionnement des différentes choses. On s'attache aussi dans cette lettre du réseau à toujours mettre les coordonnées et le nom des personnes qui font des projets. Et ça permet, c'est arrivé plusieurs fois, à des personnes de se contacter entre elles sans passer ni par les pilotes ni par le coordo, mais de contacter la personne. Je pense notamment à des ateliers d'aide scolaire qu'on avait mis en place avec les parents dans des écoles élémentaires. Et il y a des professeurs du collège qui étaient très intéressés par cette expérience, qui ont contacté directement les écoles élémentaires, qui sont allés voir et qui ensuite ont mis ça en place au collège. Donc ça, après, ça se fait entre les enseignants et finalement, c'est très bien. On est au courant forcément, mais c'est bien. Un autre exemple aussi, dans une des lettres, on avait parlé des ateliers ROL, les réseaux d'observation de la lecture. Et moi, j'ai le souvenir d'une CPE qui m'a dit un jour, ça se passe au collège, qui m'a dit, on avait expliqué dans l'aide ce que c'était. Elle m'a dit « Ah, mais c'est ça le rôle !» Parce qu'on parle tout le temps des classes rôles. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'il y en avait quand même pas mal dans le collège qui ne savaient pas tout à fait ce que c'était que les classes rôles. Ce qui, effectivement, n'est pas très explicite quand on parle des classes rôles. Et donc, ça permet aussi de, voilà, de donner quelques explications supplémentaires. Alors, cette lettre, elle est largement diffusée. Donc, elle est diffusée via mail à toutes les équipes du réseau. Alors, je fais comme ma collègue, on la diffuse aussi en version papier, parce que souvent, c'est ce qui est le plus lu. Donc, on ne sait pas très bien qui la lit, mais on pense qu'il y a quand même pas mal de monde, finalement, qui la lit, au moins les personnes qui sont dans la lettre. Et puis, au fur et à mesure, ça fait écho. On la diffuse aussi à tous les partenaires extérieurs, la réussite éducative, la politique de la ville, les associations. Ça permet aussi au niveau du quartier de donner une meilleure lisibilité de ce que c'est qu'un réseau d'éducation prioritaire et ce qu'on y fait, puisque finalement on y fait pas mal de choses. Elle est diffusée sur le site du rectorat de Paris, bien sûr. On la diffuse aussi à des médias professionnels, à l'OZP, au Café Pédagogique, et qui, bah, finalement, sont assez friands de ces informations et les reprennent régulièrement dans leurs parutions. En revanche, on ne la diffuse pas aux parents, et on se demande si on ne devrait pas le faire. Voilà, peut-être sous une autre forme, parce que les quelques parents qui ont eu l'occasion de lire cette lettre... plusieurs fois, on se dit « Ah bon, mais... Ah d'accord, c'est ça, réseau d'éducation prioritaire, vous travaillez ensemble, on fait pas mal de choses. » Et ça donne une autre image de ce que peut être un réseau d'éducation prioritaire. Voilà. Donc voilà, donc ça participe à tout ça. Puis je dirais aussi pour terminer que ça participe aussi pour tout le monde à un certain sentiment de fierté d'appartenir à un réseau. On se dit vraiment, finalement, il se fait beaucoup de choses, ça donne des idées, ça donne envie de travailler ensemble. Voilà.
Oui, je reprends la parole. Je suis sur Clermont-Ferrand, Caroline Civalero, professeure académique. Du coup, si on a le droit de polémiquer, moi, je polémiquerai un petit peu sur l'idée du projet, parce que effectivement, nous, on est sur un collège ZEP avec une tradition de projet qui se multiplie. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas forcément toujours au courant de tous les projets, mais moi, j'ai le sentiment, avec d'autres collègues, qu'au bout d'un moment, on a un éparpillement dans plein de petites activités, avec des élèves qui sortent beaucoup de classes. Et par contre, qu'on n'arrive pas à traiter les problématiques lourdes et sous-jacentes d'échecs scolaires. Donc c'est vrai que sur les dynamiques de ZEP, on a un peu, nous, cette sensation-là. Et du coup, ma question, ça serait effectivement, par rapport à ce que vous avez dit aussi, c'est comment mettre à jour ces problématiques de façon démocratique, c'est-à-dire que tous les collègues puissent, enfin, qu'on ait une visibilité, une priorisation sur les temps de concertation, et de quelle façon, très techniquement. Ça s'adresse un petit peu à vous deux, en fait. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair.
Juste pour dire, la profusion de projets, d'actions, on en a fait aussi le bilan chacun dans les réseaux, puis au moment des assises. Et le fait d'avoir un projet de réseau qui définit quelques axes, très peu, deux ou trois, est quand même quelque chose qui vise à redonner des priorités à l'ensemble des enseignants. Et toute la démarche dont a parlé Christine, qui a été très démocratique, d'une démocratie participative forte, permet d'adhérer, de faire adhérer l'ensemble des enseignants sur des axes forts et qui, à terme, évite aussi cet éparpillement par inquiétude des enseignants à ne pas faire réussir leurs élèves. Donc je pense que c'est en engageant le maximum d'enseignants sur quelques axes très fédérateurs et qui sont à mettre en œuvre sur l'ensemble du parcours scolaire qui peut apporter une réponse peut-être à ça. Puis je vais...
Au niveau de mon réseau, pour illustrer les propos de Joss également, l'axe 4 du contrat de Clémenceau était autour des projets artistiques et culturels, développer l'appétence à la culture. Et il était entendu dans le contrat de prioriser les projets qui correspondaient à de véritables objectifs et à cet axe numéro 4 avec un travail en amont et une préparation. Donc c'était aussi un moyen... grâce à cette formalisation d'un contrat avec des axes prioritaires, de limiter cet éparpillement et de ne pas développer une multiplicité de projets artistiques, d'éducation artistique et culturelle, comme on peut voir dans de nombreux établissements, les collèges au cinéma, toutes les différentes actions qui ne sont pas forcément travaillées ni en amont ni après, voilà, qui sont simplement de la consommation de biens culturels. Donc c'est aussi grâce à cette formalisation par les contrats qu'on a pu, nous, l'éviter, mais voilà.
Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, parce qu'il me semble que c'est important. C'est un petit peu la polysémie, hein. Oui, Michel Coulon, la DGESCO. En fait, j'avais plusieurs choses à dire. La première chose, c'est rebondir sur ce que vous dites au niveau du projet. Enfin, on s'est beaucoup fourvoyé dans l'éducation prioritaire sur le mot projet. C'est-à-dire que construire un projet ou avoir un projet, ça ne veut pas dire forcément faire quelque chose d'extérieur à nos... Parce que je suis ici à l'IFE, je vais parler comme on parle à l'IFE, extérieur à nos problèmes de métier. C'est-à-dire que le projet, ça peut être tout à fait de travailler ça. C'est-à-dire travailler l'écriture, comment on fait écrire les élèves. C'est un projet. Il n'y a pas obligatoirement besoin d'inventer d'autres choses, parce que c'est quand même souvent ce qu'on voit, même encore maintenant. Voilà. Voilà. Et donc on a l'impression, au bout d'un moment, que finalement le projet de réseau serait quelque chose d'extérieur, serait une succession d'actions un petit peu disparates qu'on essaierait de réunir un petit peu dans des thématiques et ce serait extérieur à nos pratiques quotidiennes de classe et à nos problèmes quotidiens qu'on a avec les élèves. C'est pas vrai. C'est le projet du réseau, c'est ça. C'est comment on s'empare collectivement des difficultés des enfants et donc de nos difficultés d'enseigner et comment on les travaille ensemble. Le projet de réseau, c'est sa raison d'être. Hein. Enfin, ça va peut-être sans dire, mais enfin, je préfère que c'est quand même important de le redire. Hein. C'est parce qu'on a quand même encore maintenant ces dérives un peu activistes ou périphériques ou tout ce qu'on a pu dire à un moment donné. Hein. Donc, je pense qu'il ne faut pas se tromper. La deuxième chose que je voulais dire depuis tout à l'heure, c'est être bien clair sur le terme qu'on a entendu plusieurs fois, des REPLUS préfigurateurs. Le mot préfigurateur, il faut vraiment bien le comprendre. C'est-à-dire que c'est pas une expérimentation, c'est une préfiguration. C'est-à-dire qu'on a une politique d'éducation prioritaire qui se met en marche sur 102 réseaux qui montre un petit peu le chemin, c'est-à-dire qui ouvre la voie à un certain nombre de choses. On cherche, et là il y a un travail, ce serait bien que ce soit un travail d'équipe, un travail collectif entre finalement le ministère et puis les réseaux qui sont en place où on regarde ce qui se passe et on voit tous les problèmes qui se posent, les modalités qui sont plus ou moins qui sont plus ou moins adaptées à l'objectif qu'on poursuit pour essayer d'en tirer les leçons ou des enseignements pour la généralisation de l'année prochaine. C'est vraiment ça l'objectif de la préfiguration, hein. C'est aussi pour ça que enfin je suis là et puis pour écouter les problèmes, solutions trouvées, pour se nourrir un peu mutuellement. C'est le sens de la préfiguration que je voulais redire ici, parce que dans le cadre d'un travail collectif d'équipe, c'est aussi important de redire cette notion-là.
Et c'est vrai que sur le côté préfigurateur, on est vraiment très attentif à ce qui se passe dans le réseau Clémenceau, qui fait des essais-erreurs, et on va mettre sans doute en place un travail, là aussi, collectif, avec l'ensemble des pilotes qui seront concernés l'année prochaine par les REPLUS, pour voir qu'est-ce qui a été proposé, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui convient d'aménager, etc., pour ne pas refaire éventuellement les mêmes erreurs, voilà. Etc. Et là, l'expérience, vraiment en termes d'expérience de mise en œuvre de cette année sur un des réseaux parisiens, et sera très très bénéfique, justement dans un travail de partage, de mutualisation.
C'est ça, l'observation de ce qui se passe là, c'est pas l'observation de est-ce qu'ils font bien ce qu'on a dit qu'il fallait qu'ils fassent. Non, mais de notre. Je me méfie un peu des fois de ce qu'on. Mais c'est. Voilà, on a des objectifs, on voudrait développer le travail d'équipe des enseignants, il y a des moyens qui sont mis, des dispositions qui sont prises, comment est-ce que ça peut fonctionner, quelles sont les dérives à éviter, enfin tout ça c'est vraiment de l'observation pour pouvoir en tirer les leçons pour, enfin certaines leçons peut-être pour 2015, en sachant que c'est quand même un enjeu très fort, c'est-à-dire qu'il y a... Il y a quand même des dispositions qui sont prises là actuellement, qui sont des dispositions sans précédent pour développer le travail d'équipe. Et donc, il est vraiment crucial, important, déterminant d'en faire quelque chose.